Absolument. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose simplement. Saluer la confiance que tu nous fais pour accueillir ton émotion. Hein? Alors, ça a suscité un peu de bruit ici ou là, mais tu voilà. Hein, je voudrais d'abord dire ça.
J'y peux rien, il y a certains mots qui me font pleurer.
Voilà, alors je pense que en deçà de la confiance, il y a le fait que tu occupes là une position, c'est-à-dire qu'au fond, il y a toute une évolution. Et que il y a eu Janine, lue et traduite par les autres, longtemps. Y compris dans le livre collectif, hein, autour du manuscrit de ton père. Janine, lui, est traduite par les autres, y compris comme traductrice des autres. Y compris comme traductrice des autres. Car quand tu traduis les autres, Freud, Hanke, Annie Ernaux, c'est pas seulement une traduction au
Oui,
sens.
oui.
Hein,
D'ailleurs, mon livre, j'ai écrit un livre sur la traduction, l'écriture de Freud. L'écriture de Freud a pour sous-titre Traversée traumatique et traduction.
Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu traduis les autres, c'est une manière de te d'être lu et traduite par les autres. Voilà, c'est ça. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon. Et là, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la première fois, mais il y a quelque chose que tu laisses se déployer. Là, c'est Janine, lectrice de Janine Altounian. Voilà, et je pense que c'est pas sans rapport avec la possibilité de laisser s'exprimer en confiance une généalogie d'émotions. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une émotion, c'est une. Voilà.
Et je suppose que ce dont je fais état est un phénomène humain propre à chacun. Je ne ressens pas ça comme une sorte
Exceptionnel.
d'intimité que je livrerais. Je livre quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes, mais qui peut-être se sentent gênées pour la livrer, alors moi ça ne me gêne pas. Et je crois que si ça ne me gêne pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence en moi. Et qu'il y a peut-être une démarche violente à livrer ça.
Alors, je vais le dire autrement. Il y a eu deux temps dans ton exposé. Qui ont, je trouve, exprimé les deux pôles que tu réunifies là, en Janine, lectrice de Janine. Il y a le pôle traduire pour réalité, le pôle du travail.
Oui.
Hein? Et puis, il y a le pôle de l'amour. Écrire pour aimer, tu as dit, transmission aimée. Alors, dans le premier pôle, c'est effectivement cette sempiternelle mention de toi comme analysante.
Ben oui, je suis pas
Voilà.
psychanalyste, donc il faut que je le dise.
Voilà. Alors, voilà. Sauf que ce que tu m'as rendu, ce que tu m'as rendu plus sensible que d'autres fois aujourd'hui, c'est que dans ce premier pôle, l'analysante écrivant, hein, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu écris pour le psychanalyste.
Oui.
Et non seulement tu écris pour le psychanalyste, mais dans un sens très précis, tu théorises pour le psychanalyste. Tu théorises pour le psychanalyste. C'est-à-dire, autrement dit, tu théorises pour aider le psychanalyste à être psychanalyste, un psychanalyste qui va pouvoir y comprendre quelque chose à l'étrangère que tu es dans ton expérience traumatique. Voilà. Ça, c'est une chose que je veux dire. Donc, tu théorises pour lui, pour lui permettre d'être analyste. Voilà.
C'est-à-dire que ta contrainte, puisque on a parlé de ta contrainte, parce que j'ai pas du tout aimé faire ce travail, hein.
Bien sûr.
Ta contrainte, finalement, ce serait donc pour te servir.
Ça,
Heureusement qu'on rit, hein, parce que si on riait pas.
ça, c'est un couple, hein, vous avez remarqué. Ça va très bien ensemble.
Alors,
Voilà, alors,
vas-y.
non, mais voilà, c'est-à-dire que L'autre pôle, au fond, c'est l'amour, c'est-à-dire, c'est effectivement, alors, bon, voilà, tu as dit très bien, je ne vais pas jouer l'analyste, hein, mais juste, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement d'un travail de deuil, mais plus précisément, l'accomplissement d'un travail de deuil vis-à-vis de l'identification à un deuil impossible.
Ah oui, explique mieux aussi.
Voilà. Non, j'explique pas mieux. Non, non. Je me contente de dire. Je me contente de dire. Voilà, c'est-à-dire que... Non, mais on pourrait redire dans tout ce que tu as livré autour de ton père, mais je n'ai pas du tout envie de...
Non, mais
de...
pourquoi tu appelles ça l'identification à un deuil impossible ?
Et le mot
identité.
Eh bien, parce que. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon mot. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose d'un consentement à l'enfermement dans un deuil impossible,
oui.
Dont tu acceptes de te délivrer, sinon aujourd'hui et maintenant, en tout cas aussi aujourd'hui et maintenant. Et y a donc un travail de réunification.
Oui, grâce à l'autre.
Grâce à un autre que tu aides à construire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement de la confiance. C'est quelque chose que tu construis. Tu construis l'analyste. Tu construis une réception possible. Et donc, tu construis la possibilité d'exprimer une émotion pour toi et pour l'autre, en quelque sorte. Aussi bien l'autre au sens de celui à qui tu t'adresses, l'analyste, que l'autre en toi, c'est-à-dire ce dont tu as hérité. Hein?
Est-ce que je pourrais préciser, parce que je n'ai pas suffisamment précisé dans mon texte, pourquoi, à mon avis, ce travail d'élaboration par l'écriture ou par la cure aboutit à l'amour ? C'est parce que pour pouvoir aimer, il faut de la distance. Or, comme je l'ai dit rapidement, et je l'ai davantage exprimé quand j'ai analysé Camus et Paché, il n'y a pas de distance entre les parents traumatisés et leurs enfants. Il n'y a pas de distance, il y a un amalgame fusionnel, ça ne peut pas, rien ne peut se dire, rien ne se dit. Donc, rien ne se dit et donc l'amour ne peut pas s'exprimer. Et pendant longtemps, dans le travail, on peut imaginer que le parent n'aimait pas. Parce que lui, aimer, tout ça, c'est du luxe. Hein. Vous savez, aimer, c'est du luxe. Il faut d'abord manger, avoir un toit, et puis après, on voit si on peut aimer. Donc, si vous voulez, on pense dans un premier temps que le parent n'aime pas. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il est même privé de la capacité d'aimer. Et donc, c'est le travail de la cure et de l'écriture qui montre que, finalement, il y a de l'amour, mais c'est un amour enfoui, empêché. Par exemple, ce père, dans cette scène, qui donne son enfant à l'école de la République, c'est pas qu'il n'aime pas son enfant, le problème n'est pas là. Mais il y a quelque chose du style, bah, qu'elle fasse sa route. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, le travail de la cure, à mon avis, ça peut, son aboutissement, c'est l'amour. C'est un mot un peu banalisé maintenant, mais c'est pas facile d'aimer. Et donc, je trouve que c'est l'aboutissement. Mais même un héritage traumatique, parce qu'il est quand même très nourrissant.
Alors, Pierrette, Ghislain, monsieur.
Alors, bon, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas ému, ça m'a profondément ému, parce que vous racontez quelque part mon histoire, mais avec des grands écarts. C'est-à-dire que moi, avant de passer à l'écriture, il m'a fallu 50 ans. Et c'est passé par un détour qui a été la transmission à ces enfants dont vous parlez, et moi aussi les mots sur mon, qui sont les dispositifs dans les banlieues. C'est-à-dire j'ai travaillé 22 ans avec ces enfants des banlieues, avec beaucoup d'années de recherche pédagogique. Je ne suis pas psychanalyste non plus, je suis analysante, mais pas psychanalyste. Pour quelque part projeter sur eux une réparation de ce que j'avais vécu. Et il a fallu 50 ans.
Je peux vous demander, en gros, vous venez d'où ?
Oh, c'est compliqué. Je suis juive, de mère hongroise, de père polonais, et de père aveugle. Donc, il y avait un double traumatisme. projetée sur mes enfants, mes élèves, pas mes enfants malheureusement, mais mes élèves, ce que je n'osais pas faire moi-même. Mmh. C'est-à-dire, je les ai amenés à l'écriture. J'étais professeur de lettres et d'art plastique. Mmh. Et je vous dis, il a fallu 50 ans pour que j'ose écrire cette histoire d'amour, haine du père. Liée à l'école, puisque j'étais professeur de lettres.
Ah oui.
Et comme je ne venais pas au départ d'un père qui avait lui-même, qui s'était lui-même autorisé à écrire, c'est très intéressant parce que j'étais la première dans la famille, je suis la cadette, hein, à porter cet héritage et à le transcrire en mots. Et c'est devenu un livre qui a eu énormément de mal, mais de bon fait, hein, je ne dis pas que c'est le fait des éditeurs, à être édité. Parce que je l'ai présenté en fragments complètement dispersés et il a fallu que je trouve un tout petit éditeur qui accepte de le de lui donner forme. Et maintenant, peut-être qu'un jour il sera republié sous une autre forme. Il a été publié à très peu d'exemples. Et ce qui m'intéresse, c'est quand et de quel milieu il faut s'originer pour se donner cette autorisation. Qui est un énorme travail sur soi pour arriver à se dire on a le droit, je pense à Kerchlej, à Primo Levi, qui très vite se sont donné ce droit de transmettre le traumatisme. Mais dans certains milieux, c'est beaucoup plus tortueux et beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais le cheminement que vous avez donné pour y arriver et les élaborations successives, j'ai traversé ça, mais différemment, par d'autres chemins. Vous m'excusez, j'ai beaucoup parlé de moi. Là.
Ben non, mais vous illustrez autrement, oui.
À ce que vous avez dit que
oui. J'ai besoin de... Oui, ben je vous remercie. Ça confirme bien ce que je dis. Quoi. C'est rien d'original, quoi. Tout ça, ça existe partout. Enfin, pas partout, hélas, mais... Oui, parce que je me demande toujours d'où vient, c'est une discussion que j'ai eue avec Bertrand Gilvie, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont sourdes à ces histoires-là ? Parce qu'il doit y avoir dans les lignées forcément des catastrophes.
Et nous sommes sourds, aujourd'hui, et c'est très grave, on perd 50% de la richesse nationale en étant sourd au traumatisme des enfants des banlieues.
Ben oui.
Et ça, je vous remercie infiniment de l'avoir dit à la fin.
Si on me donne encore 2 minutes, attendez, voilà. Comment s'est fait mon écriture ? Comment, je vous ai dit que j'ai commencé à écrire en 1975, oui. Mon
1975,
premier.
Oui. Hein.
Alors, d'où vous voyez l'incident des événements politico-culturels ? C'est que pour la première fois en 1974. Est paru un livre qui s'appelait « Un génocide exemplaire » de Jean-Marie Carzeau. Et quand j'ai lu ce livre, alors que mes parents ne parlaient pas grand-chose, ils disaient rien, ils disaient « il faut travailler, faut sortir de la misère », à une époque où il y avait du travail, même sans papier, on pouvait travailler. Bien, et quand j'ai lu ce livre, « Un génocide exemplaire », je me suis dit « mais c'est pas possible, mais c'est ça ce que je vis à la maison ». Alors qu'à la maison, il n'y avait aucune explication. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin d'écrire. Alors que je n'aime pas du tout écrire et que j'avais aucune envie d'écrire. Et j'ai apporté mon texte à un cours d'histoire d'une historienne en lui disant « qu'est-ce que je peux faire de ça ?» Alors elle m'a dit « oh, elle me dit, vous devez être un peu féministe. Envoyez donc ce texte à Simone de Beauvoir au temps moderne. » Je ne suis pas universitaire, rien. Et voilà ce que j'ai écrit à Simone de Beauvoir. Le 25 juin 1975, joint à une ébauche d'article que je lui adressais pour solliciter auprès d'elle la publication d'un texte définitif que j'allais travailler si elle me donnait son accord. Madame, vous êtes une des premières à avoir dénoncé le scandale de la condition féminine, effrayé la voie susceptible de mener les femmes à elles-mêmes. Au nombre de ces créatures inexistantes, dont les femmes font encore partie, on peut évidemment ranger les opprimés ou ignorés de toute espèce. Je m'adresse donc ici à vous en tant que femme et femme d'un peuple massacré en silence il y a 60 ans. La récente commémoration du génocide des Arméniens, premier génocide de notre siècle, ainsi que la parution de l'ouvrage de Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire, ont coïncidé en moi avec l'aboutissement d'un cheminement personnel au cours duquel j'avais pu, à l'aide d'une psychanalyse, remonter par-delà les asservissements de toute femme jusqu'à l'exil hors des terres natales, la déportation et la mort de la famille, la perte irrémédiable des racines. J'ai ressenti alors le besoin d'écrire, initialement pour moi-même, ce texte que je vous joins. Madame Termination, historienne que je cite, m'a conseillé en effet de le faire publier dans une revue telle que Les Temps modernes. J'aurais aimé à ce sujet pouvoir vous rencontrer et vous demander si ces pages peuvent présenter quelque intérêt auprès des lecteurs de cette revue, auquel cas il faudrait peut-être que je les remanie. En ce qui me concerne, j'ai évidemment la conviction que ce que j'ai écrit constituait un témoignage parmi d'autres sur le mécanisme implacable par lequel tout discours dominant maintient ses opprimés dans l'incapacité de nommer la violence qu'ils vivent, au point même qu'ils croient ne rien avoir à dire. C'est pas mal, hein? Attendez, j'ai pas fini. La perte d'identité les condamne au silence. Je me demande aussi si un tel témoignage sur le crime parfait ou une recherche dans ce sens ne pourrait pas servir également ailleurs la cause des rescapés de tout massacre. J'ai 40 ans, je suis enseignante en allemand, divorcée, mère de 3 enfants. De par ma formation et le fait que le français n'ait pas été ma langue maternelle, j'ai tendance à penser que tout changement de société dépend, entre autres, de l'accession des opprimés à leur langage spécifique, c'est-à-dire à leur puissance à démasquer en la nommant la domination jusqu'alors tacitement subie et intégrée, dans l'espoir qu'il vous sera possible de me recevoir. Et le 2 juillet, donc ça c'était la lettre du 25 juin, le 2 juillet, Jean Pouillon me communiqua l'acceptation du comité de rédaction. Les 6 autres textes qui suivirent, dont celui du manuscrit paternel en 1982, rencontrèrent la même réponse favorable. Alors je cite ça parce que ce qui m'inquiète, c'est que cette époque dont j'ai bénéficié, cet accueil que j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie, y compris celle des œuvres complètes, je vous raconterai si j'ai le temps, ben je pense que c'est plus possible maintenant. Et donc comment l'élaboration... Bon, alors voilà, maintenant c'est toi qui distribues la parole, oui. Ben, c'est pas possible maintenant, voilà, je dis précisément... Ah bon, d'accord. Bon, je n'étais pas universitaire, hein. J'avais aucun père me recommandant. Elle a lu mon texte. Alors, il était, donc, ce qui s'appelait « Comment peut-on être arménien ?» Évidemment, je reprenais le texte de « Comment peut-on être persan ?» C'est-à-dire que c'était le texte d'une personne qui avait été à l'école, qui avait appris des choses de l'école de la République, qui savait s'exprimer, la preuve dans cette... C'est-à-dire que j'ai accepté les contraintes de l'école. J'étais pas une excellente élève, hein, j'étais une élève moyenne. Mais je savais qu'il fallait accepter les contraintes de l'autre, la culture de l'autre. Or, quand on faisait cet effort d'entrer dans la culture de l'autre, eh ben, il y avait ce qu'on appelle les récompenses. Et la preuve, moi, j'ai pas compris comment mon texte a été accepté. Et après, elle a accepté tous mes textes, donc une arménienne à l'école, que je vous ai lu, et puis le texte de déportation de mon père, dont j'ai appris par la suite qu'elle avait dit que c'est quand même un texte sauvage. Mais pourquoi l'a-t-elle accepté ? Là vient l'incidence du politique. C'est qu'il y avait eu en septembre 81, ça je n'oublie jamais de le dire aux psychanalystes, la prise d'otage au consulat de Turquie. Septembre 81. Donc, subitement, on parle des Arméniens dans la presse. Ah, les Arméniens, c'est quoi leur truc ? Voilà. Et à ce moment-là, je lui envoie le texte de déportation de mon père, parce que j'avais montré carte blanche qu'elle m'avait déjà publié. Eh bien, elle a publié ce texte. Donc, c'est la conjonction des efforts de l'écolière à devenir une élève parlant correctement le français, de l'acte politique de violence qui a fait que le texte de déportation de mon père a été publié. Et c'est pour ça que dans tous mes travaux, je parle de l'incidence du politique. Alors, pourquoi répondre à ta question, Ghislain ? Je pense que cette configuration, peut-être que d'autres personnes ici pourront mieux m'expliquer, cette configuration que je vous mets en place n'est plus possible. En particulier, le travail. On pouvait travailler. Et moi, qui étais prof d'allemand, j'ai cessé de... Si vous voulez, il faut travailler. Mais or, ça n'a plus de sens, maintenant, de dire ça. Le travail n'a plus de sens. Donc, je suis très pessimiste. Et je dis toujours, vous ne devriez pas m'inviter à parler parce que je vous parle de quelque chose qui n'existe plus. Alors, si vous me contredites, c'est parfait.
Alors, on va justement laisser la possibilité
voilà.
De t'accompagner. Et pas te contredire. Alors, il y avait Ghislain.
Oui.
Il y a quelqu'un qui est Arlette. Voilà. Prends Ghislain.
Oui. C'est quand même passionnant. Que ça posait que des problèmes actuels considérables,
hein. Tout à fait, hein,
les politiques actuelles, c'est évident, de la politique de la psychanalyse aussi. Mais moi j'aimerais revenir aussi sur la question au fond de la temporalité d'écriture. C'est-à-dire que il a été dit, on avait dit justement que la question qu'il y a des gens qui écrivent le plus vite possible. Et on a vu par exemple dans les écritures après l'expérience des camps. Certains s'étaient précipités dans une écriture de témoignage, et que d'autres avaient eu besoin, au contraire, de mettre le plus de temps possible. Saint-Prun, par exemple, il explique qu'il avait eu besoin de...
Écriture ou la vie.
Avant de commencer à écrire son témoignage, et que ce temps de silence avait été un temps de protection, au fond, par rapport à la confrontation d'une écriture qui viendrait, en répétant quasiment le traumatisme, confronter à nouveau avec la réédition. Mortelle ou diffère. Bon, donc cette question du délai, du temps, c'est très très important.
Oui, et de la génération, moi je ne suis pas une survivante.
Et tout à fait, et absolument, et du temps de génération. Seulement, ton père a écrit.
Oui, oui.
J'ai trouvé que tu, oui. Là, dans tout ce que tu nous as dit,
oui.
ça passe pas entre parenthèses, parce que tu l'as sans arrêt bien en oui. Serre, mais je voudrais t'interroger
oui.
Sur les rapports du fait que ton père est passé par écrit.
Et il m'en a jamais parlé.
Non, mais attends une minute.
Je ne savais pas que ce manuscrit existait.
Attends, ton père est quand même passé par là, même une écriture sauvage, même une écriture sur le champ.
Oui, tout à fait, tout à fait.
En tout cas, une trace,
oui,
un
oui.
Déplacement
oui.
Sur une autre scène.
Oui, oui,
même,
oui.
Même au moment même du drame, on pourrait dire. Hein. Et qu'est-ce que ça, même, tu vas me dire, tu ne le savais pas, d'accord. Mais quand même, on sait bien que quand on ne peut pas savoir...
Mais quelque chose passe.
Quelque chose passe quand même dans un savoir. Comment ça a ouvert, comment ça a frayé un chemin.
Oui, je crois, je crois.
Pour toi, par cette nécessité de tout ce que tu nous as dit, qui est passionnant, on va passer par l'écriture et par la publication. Hein. Et c'est vrai que l'écriture de ton père était une écriture enfouie, encryptée, enquistée, non publiée, enfin, ça doit publier, mais non publié pour lui, hein, et que c'était au fond une espèce de encrypté par quelle clé il fermait la crypte. On peut s'interroger sur qu'est-ce qui faisait que, par exemple, il y a un silence de sa part sur cette écriture, sur ce texte.
Il me parlait de rien.
Non, mais attends, il me parlait de rien, mais il n'avait pas parlé non plus de ce texte.
Oui.
Bien, par exemple, la honte, par exemple, est un élément extrêmement important. Dans les...
Je pense que ce n'était pas la honte chez lui.
Ah, écoute, je fais un certain nombre d'hypothèses.
Oui, 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 d'accord.
J'essaie d'avancer pour faire que c'est la génération suivante.
Oui.
Il est possible de se saisir d'une clé.
Oui, oui.
Alors, d'une clé introuvable, d'une clé perdue.
Oui, oui, oui.
Qu'on a jetée à la mer, je ne sais pas. Hein. En tout cas, pour ouvrir.
Oui.
Enfermé par quel
oui.
Affect, encore une fois, pour ouvrir cette porte et venir recueillir l'intérieur de la clé, la sortir et venir la porter au regard d'autrui, la publier, la faire connaître, l'autoriser d'une certaine manière à exister. des enfouis, en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça a ouvert en toi, même si tu as dit, en effet, que tu avais commencé déjà à écrire avant la découverte de ce texte, néanmoins, bon, je te demandais qu'est-ce que c'est que
Oui, c'est-à-dire que j'avais commencé à écrire avant, mais quand j'ai découvert ce texte et sa traduction, d'abord ça m'a précipité dans une seconde analyse, mais j'étais déjà préparée à... Parce que, voilà.
C'était ma question, c'était au fond, quand, dans la scène que tu racontes du lycée,
oui.
Tu te trouves avec la question de l'écriture quand même, la question de l'école, de l'écriture, sont deux.
Oui.
La question de ton père est assez indifférent à cette situation, bien qu'il soit là.
Oui, il est là. Il est là et il a de la prestance que n'a pas la surveillante générale.
Il est là.
Oui, il faut bien que les filles aiment leur père.
Il est là dans la confiance.
Voilà. Oui, il est dans la confiance.
C'est là la grande différence.
Oui, il est dans la confiance. Oui, mais cette confiance vient du fait de la France de l'époque.
Ce rôle d'écriture avait été tenu par lui, pour lui. À ce moment, il écrit ce document. Qu'est-ce qu'il avait amené à écrire ce document ?
Vous savez... Comment ? En fait, Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas chez mon père... Il y avait... À quoi bon ? À quoi bon ? Comment ? Oui, ça veut dire moi c'est fini. Et effectivement, ça donne de l'espace à l'enfant, mais moi c'est fini.
On va sortir du dialogue.
Déchiffrer le palimpseste de l'inconscient est pour moi analogue au fait de passer de l'écriture, par exemple, arménienne. Ce passage de l'écriture de la politique dite cyrillique, ou même, c'est quelque chose de formateur. Par-delà, et dans votre rapport à la barbarie, je n'ai pas en rajouté, simplement, il y a lieu de dire que votre façon de faire un plaidoyer en faveur de la tradition écrite laisse de côté hégémonie tout ce qui est tradition orale, et je pense aux hymnes védiques et autres qui quand même passent un petit peu à côté.
Ah oui, je vous remercie monsieur, oui. Oui. D'ailleurs, tout de même, je peux vous dire, c'est vrai que je pourrais continuer le dialogue avec Ghislain Lévy, mais par rapport à la tradition orale, ce que je peux vous dire, c'est que mon père ne me parlait pas particulièrement de rien. Mais ce qui a été très important dans ma vie, c'est que quand j'étais enfant, je l'entendais parler dans une langue que j'étais censée ne pas comprendre et que je comprends un peu. Quand je vois les films turcs, je comprends. Il racontait à ses amis ce qu'il avait vécu. Et il racontait, et alors j'en parle un petit peu dans un de mes textes. Moi j'étais sensible, il y avait des histoires de chameaux. Et alors je trouvais ça extraordinaire, c'est-à-dire que, parce qu'il c'était pas quelqu'un qui se plaignait, il n'avait pas de plainte, mais... Il racontait les choses avec une certaine aisance, et je crois que j'ai été amoureuse de cet art de narrer oralement. Et alors les chameaux et tout ça, et comment les bédouins, il évacue chez les bédouins et tout. Voilà. C'est la tradition orale, oui, dans une langue que j'étais sans...
Sans marque,
oui. Et peut-être que c'est ça qui s'est inscrite en moi. Ces paroles orales du père, qui recensait tout. Parce que ce qu'il y a dans ce témoignage, c'est qu'en fait, il veut tout recenser. C'est un homme très précis. Rien ne manque.
Alors, comme je dois penser que il y a une place nécessaire à accorder ensuite à Georges-Arthur Goldschmidt. Donc, je ne peux pas. Donc, il y a Arlette, il y a Gilles, et il y a Georges-Arthur Goldschmidt, et après, on arrête.
Très bref.
Hein, voilà. Alors, donc, c'était. Dans l'ordre, c'était Gilles, pardon. Arlette et Georges-Arthur. Et après, on arrête. Sinon, Georges-Arthur n'aura pas la place au début.
Oui,
monsieur.
Je voulais savoir chez. Dans les familles arméniennes qui ont envoyé des enfants à Beyrouth, par exemple chez les chrétiens, ou qui les ont envoyés pour les protéger dans des familles arabes, ou même
comme là.
Dans les familles turques contre les jeunes turcs,
oui.
Qui malgré tout ont été derrière, impliqués là-dedans, est-ce que cette stratégie de réinsertion dans la succession et cette capacité d'être l'héritier en quelque sorte, va se faire autrement. Je veux dire par là, vous trouvez un contexte en France qui rend possible l'école même.
Oui, un contexte laïque.
Les éditeurs,
laïque.
Les politiques institutionnelles,
oui, oui.
Etc. Mais lorsque ce n'est pas présent, de quelle façon peuvent-ils se réinscrire dans.
Alors, justement, je peux.
Les héritiers. Et je fais juste une petite. Je repense après ce désastre collectif de la chute des Aztèques, où nous avons entendu à travers les chroniques espagnoles la voix des vainqueurs. Les vaincus, cette parole réprimée, impossible, c'est en fait. Des missionnaires, je pense au père Bernardino de Sahagún, qui va recueillir en nahuatl, dans la langue même, des chants de grande tristesse et tout ça, et aussi des transformations du système. Est-ce qu'on pourrait penser que là-bas, dans le monde arabe, ou dans le monde turc ou kurde, puisque plusieurs sont allés jusque dans le pays kurde, est-ce que ce travail va se faire autrement.
Alors, de toute façon, s'il se fait, il ne peut se faire qu'autrement. C'est pas du tout. Et là, c'est pas moi qu'il faut interroger. Si vous voulez, moi, j'ai tendance à penser, mais c'est probablement un a priori, que la France précisément jacobine, mais laïque, autorisait, permettait qu'on acquiert sa culture. Parce que c'est justement que. C'est parce que c'est un pays centralisateur. Qui fait qu'on est délivré de l'appartenance communautaire, parce que l'appartenance communautaire est tout à fait enfermante. Donc, pour pouvoir parler son histoire, il faut entrer dans la terre de la centralité. Et je trouve que les conditions en France étaient les meilleures. Mais c'est pas la même chose. Alors, ce qui facilite aussi, c'est que ce dont s'enorgueillissent les Arméniens, c'est que c'est le premier État chrétien du monde, et donc il n'y a pas d'obstacle, on est dans un pays chrétien, voilà. Mais je trouve que la France permettait quelque chose de magnifique, ce que j'appelle le pays d'accueil.
Arrête.
Oui. Alors voilà, vous avez commencé en disant que vous ne croyez plus à votre travail.
Oui.
Bon, vous êtes pessimiste, vous dites aussi que c'est quelque chose finalement qui peut être assez banal. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose de. À la fois de banal et en même temps de fondamental, et de fondamental dans ce que vous apportez. Alors c'est une évidence que non seulement c'est de l'ordre du travail de culture, mais c'est du travail de la cure, les deux notions si superposées par Nathalie Salzman, mais alors là vraiment c'est vraiment une belle illustration des deux, de cette représentation collective dont nous avons fondamentalement besoin. Alors quand Jean-François dit vous construisez le psychanalyste, c'est vrai, je dirais vous construisez l'être humain. Et ça, c'est très important, parce que comment se fait-il que certains n'entendent pas, ne sont pas sensibles à certains de ces aspects-là? Et là, je rejoins une autre notion que j'aime bien, justement, de Nathalie Salzman, et qui est que vous augmentez la conscience de soi publique. Voilà, et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est pris par d'autres personnes, et je pense notamment à certains artistes, pas tous bien sûr, mais certains artistes qui font aussi œuvre de culture Je pense à Emre Gertes certainement, mais à Anselm Kiefer. Mmh. Et je pense aussi au film Le Fils de Saul. Alors, je crois que ces personnes ont cette capacité de plonger, comme vous le faites, dans toute cette histoire et dans toute cette temporalité, et dans tout ce qui est tellement difficile à penser, et que ça permet peut-être, un peu aux autres de penser qu'ils ne pensaient pas avant.
Oui, vous avez raison, mais...
Mais le mal est toujours là. On n'a pas tout de suite l'anticipation.
Si tu vois personne, te laisse la parole, Jolie. Allez, Georges Arthur, le dernier.
Ce sont les Allemands qui ont organisé le génocide arménien.
Oui.
Un groupe d'officiers qu'on connaît aujourd'hui très bien. Et deuxièmement, ce que tu as dit de la transmission me trouble beaucoup. Je vais désormais penser grâce à toi à ça.
Ah oui, bah, explique un peu.
Mais j'ai pas le temps, là.
Dans la conférence que vous aurez, vous expliquerez dans la conférence que vous aurez.
Non, mais ça me trouble beaucoup. D'abord, j'ai d'assimiler ce que tu...
Ah, très bien. Il faut faire un autre colloque, alors. Oui. Ah oui, oui, ça a été... Ça, c'est quand même le mérite de Merkel qui a... reconnaissant le génocide arménien, ça fait pas longtemps, a précisé que le rôle très important des Allemands là-dedans.
Le support logistique a été fourni.
Voilà, oui. Alors je précise que, puisqu'il a été question, j'ai eu l'occasion d'aller avec un collègue du Canada, de Montréal, pour la première fois en Turquie, pour la première fois en 2013. C'était pour moi une émotion très, très impossible que j'ai décrite dans le colloque, dans les actes du colloque sur les limites. J'ai raconté mon premier voyage au pays de mes parents, à Boursa. Mais ce que je dis ça, c'est parce que d'abord, vous pouvez lire ce texte, il vous parlera beaucoup. Mais j'ai connu évidemment des Turcs très sympathiques, démocrates, qui souffrent énormément de ce qu'ils sont en train de vivre. Hein. Dès qu'ils disent quelque chose, on les met en prison.
Bon. Voilà, donc merci Janine.
Les livres qui circulent sont achetables.